Bonjour Bianca.
Bonjour.
Merci d'être là.
Ça fait plaisir.
Alors, il y a de ça, ça fait combien de temps que cette étude-là a été lancée?
Ça fait déjà plusieurs années, je vous dirais un bon 5-6 ans qu'on travaille sur cette étude-là. C'est un long processus de recruter des participants qui veulent bien faire nos études à l'Institut de gériatrie. Et aussi, c'est un entraînement là, qui se déroule sur plusieurs semaines, donc c'est un gros
Ça
un
s'est gros déroulé sur 2 ans en tout l'étude, 48
exact.
Personnes.
Exactement.
68 ans et plus. Pourquoi ce groupe d'âge-là?
En fait, on s'intéresse à ce groupe d'âge-là. C'est des personnes qui sont donc évidemment vieillissantes. On remarque que c'est des gens qui ont plus de difficultés à faire certaines tâches, particulièrement ce qu'on appelle l'attention divisée ou le multitâche qu'on discutera tout à l'heure. Donc, c'est des gens qui ont plus de difficultés à effectuer ce genre de tâches-là. Donc, c'est une population intéressante pour justement faire des entraînements cognitifs avec eux. Donc, voilà.
Comment s'est déroulée l'étude?
En fait, ce qu'on a fait, c'est que, donc, au départ, on recrutait, donc, comme vous avez dit, des personnes âgées là, de 60, environ, c'était 65 ans et plus, environ, pour l'étude. Donc, d'abord, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur faisait faire une imagerie par résonance magnétique, donc un scan, une IRM, et dans laquelle on leur faisait faire donc une tâche, donc différentes tâches. L'IRM, en fait, ça nous permet d'avoir une image de la structure du cerveau, mais ça nous permet aussi de pouvoir voir quelles régions qui sont recrutées quand on fait une certaine tâche. Donc, ils sont couchés sur le dos, on leur donne une manette et à l'aide d'un miroir, ils peuvent voir les différentes tâches qu'ils ont à faire. Et nous, ça nous permet de savoir vraiment quelles régions sont recrutées. Donc, ils ont fait ça d'abord. Ensuite, ils ont été séparés en 3 groupes. Donc, ils ont effectué 3 entraînements différents. Donc, chaque groupe avait un entraînement spécifique. Le premier groupe était entraîné ce qu'on appelle en attention focalisée, où on les entraînait à faire 2 tâches de façon individuelle, mais jamais ensemble. Ensuite, on avait...
OK. Comme par exemple, tricoter et faire la vaisselle.
Exactement. Donc, ils tricotaient seulement, ils faisaient la vaisselle seulement. C'est pas exactement ça, mais c'est juste pour donner l'idée.
Oui, tout à fait. Donner un exemple pour les gens qui nous écoutent.
Exactement. Ensuite, le deuxième groupe d'entraînement, on leur demandait de faire les 2 tâches en même temps.
Et on leur disait... Tricoter, faire la vaisselle en même temps,
pas évident.
C'est très difficile.
Pas évident. Donc, ils devaient porter autant d'attention aux 2 tâches. Donc, ce qu'on appelle l'attention divisée, finalement. Et notre troisième groupe, qui est notre groupe cible, eux autres, en fait, on leur demandait de faire les 2 tâches en même temps, mais par contre, on leur demandait de prioriser une tâche plus que l'autre. Donc, ils devaient contrôler leur attention. Donc, on appelle ça du contrôle attentionnel. On leur demandait de façon volontaire de varier le niveau d'attention à accorder à l'une ou l'autre des tâches. Par exemple, maintenant, vous devez prioriser celle-ci, faire quand même l'autre, mais la première est plus importante et ensuite l'inverse. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qu'on fait dans la vie de tous les jours très, très souvent.
Oui, on fait des choix sans même s'en rendre compte.
Oui. Par exemple, si vous conduisez une voiture, vous avez une conversation avec le passager qui est à côté de vous. Donc, vous faites les 2 en même temps, mais vous devez rapidement rediriger votre attention si, par exemple, il y a un enfant qui traverse la rue. Ou un ballon qui arrive ou vous arrivez dans une zone de construction. Donc, c'est important d'être capable de, justement, de façon flexible, d'alterner son attention d'une tâche à l'autre. Puis c'est particulièrement ça. En fait, c'est ça qui nous intéressait. Mm-hmm. Et ensuite, après donc, avoir fait ces entraînements-là, on les rescannait à nouveau pour voir, justement, pour visualiser les régions qui pouvaient être améliorées suite à ces entraînements-là.
Mm-hmm. Et Bianca, qu'est-ce qui fait que ce multitâche-là, cette sorte de multitâche-là, là, c'est-à-dire de donner plus d'importance, de faire un choix de donner plus d'importance à une action que l'autre, a à voir avec le ralentissement du cerveau, ben, pas du cerveau, bien sûr, mais du vieillissement du cerveau?
En fait, nous, ce qu'on montre, puis ce qui est intéressant, c'est que cet entraînement-là a pu avoir des impacts au niveau du cerveau des personnes âgées, c'est-à-dire qu'ils avaient des activations, donc une augmentation d'activation, donc ils stimulaient davantage une région particulière qui est une région à peu près au milieu du front, donc dans les régions frontales, donc une région qui est très importante lorsqu'on fait, par exemple, 2 tâches à la fois, lorsqu'on doit justement contrôler cette attention-là. Donc justement, suite à l'entraînement, le cerveau est capable de donc augmenter davantage dans cette région-là. Mm-hmm. Ce qui est particulièrement intéressant parce que Souvent, on entend que le cerveau des personnes âgées n'est plus malléable ou, bon, on ne peut plus apprendre, mais là, c'est faux. Donc, on montre avec ça que c'est possible de réorganiser, que le cerveau peut se réorganiser même à un certain âge. Donc, c'est ça qui est particulièrement bien avec.
Et là, je me mets dans la peau des gens qui nous écoutent à la maison, qui se disent, moi, j'ai 42 ans, 36 ans, 22 ans, et je veux tout de suite ralentir le vieillissement de mon cerveau. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire?
C'est une excellente question. C'est une question qui nous revient beaucoup.
Oui.
Je vous dirais que se garder actif, ça fait partie des bonnes recettes. Donc, il y a énormément de choses qui jouent au niveau du vieillissement. On montre aussi dans d'autres études dans notre laboratoire avec Dr. Sylvie Belleville que nos habitudes de vie sont très, très importantes, ce qu'on mange, le stress aussi, mais de rester actif au niveau de son cerveau par, justement, l'entremise de différents entraînements aussi, peuvent nous aider à vieillir en bonne santé cognitive.
Mm-hmm. En même temps, ce que je me demandais en lisant les résultats de l'étude, c'est qu'il n'y a pas un risque à un moment donné, bon, c'est un petit peu ça que vous expliquez aussi, il y a toujours une tâche qui est plus importante que l'autre, mais qu'il y en ait une qui ne soit pas faite correctement.
En fait, c'est un peu ça. L'entraînement, ça nous permet de leur montrer à faire cette tâche-là correctement aussi.
Mm-hmm.
Mais ce qui était particulièrement intéressant dans le cadre de notre étude, c'est qu'avant de les entraîner, les participants étaient beaucoup plus attirés par une tâche.
Okay.
Donc, ils voulaient absolument le faire parce que c'était une tâche qui était plus complexe. Et quand on leur disait d'accorder plus d'attention à l'autre tâche, c'était complètement impossible pour eux. Parce qu'ils étaient vraiment concentrés à faire cette tâche-là, qui était beaucoup plus prenante au niveau aussi des ressources là, mentales, là, si je peux dire. Et après l'entraînement, les gens du troisième groupe, donc les gens qu'on entraînait justement à alterner leur attention.
Le groupe cible.
C'est ça. Étaient capables de laisser tomber cette tâche-là, pas complètement, là, mais de respecter vraiment l'instruction puis d'être capables de mettre l'emphase sur l'autre tâche. Donc,
est-ce qu'il y a des choses à la maison qu'on pourrait faire parce qu'on n'a pas tous la chance de se faire suivre par des chercheurs là, pendant des années, qu'on pourrait faire simplement à la maison pour se garder alerte, que ce soit notre concentration ou d'autres facultés de notre cerveau?
En fait, plusieurs choses qui sont possibles de faire. Ce genre d'exercice-là, vous pouvez le faire avec à peu près n'importe quoi. Donc, de vous dire de façon consciente, bon, mais là, je vais essayer de porter moins d'attention à cette tâche-là, plus à l'autre, et de faire l'inverse comme ça. Ça, c'est vraiment plus au niveau attentionnel. C'est certain que dans d'autres fonctions cognitives comme la mémoire, il y a plein de choses que vous pouvez faire qui ne sont pas dans le cadre de cette étude, mais énormément de choses. Juste le fait de faire des activités plus demandantes, plus complexes, comme jouer aux échecs, par exemple, ou faire des mots croisés, ce genre de choses-là, ça peut être très bien.
Cette étude-là, bon, on s'est dit que la découverte mènerait à probablement intéresser beaucoup les fabricants de logiciels parce que ça existe déjà sur le marché des logiciels pour l'entraînement cérébral. J'imagine qu'il y a un holà à mettre. Ce ne sont pas tous les logiciels là, qui sont adéquats pour les gens, les personnes plus âgées.
Exactement. C'est certain que on n'a pas évalué ces entraînements-là que vous parlez, ces différents logiciels-là, donc je ne peux pas me prononcer, en fait, à savoir s'ils sont efficaces ou non, parce qu'on ne les a pas testés en laboratoire. C'est intéressant. En fait, c'est très important quand on veut choisir un bon logiciel aussi de savoir qu'il a été, évidemment, testé, si on veut, puis qu'il fonctionne bien. Mais nous, ce qu'on montre, puis ce qui est très important, c'est que ce qu'on met dans l'entraînement, c'est important. Donc, à savoir qu'est-ce qu'on veut entraîner, ce qu'on met dans l'entraînement est vraiment... Donc, vous voyez, on a eu trois entraînements différents qui ont eu des impacts différents sur le cerveau.
Tout à fait.
Donc, c'est pas n'importe quoi qui fonctionne, dépendamment de ce qu'on veut améliorer. Donc, c'est un peu ça.
L'autre truc aussi que je pouvais lire dans les résultats, c'est que le multitâche pourrait amener aussi une plus grande charge de stress qui pourrait être à risque pour les personnes plus âgées. Est-ce que c'est vrai, ça?
En fait, nous, on n'a pas vu ça, on ne l'a pas noté dans le cadre de notre étude. C'est certain que par rapport au stress, on sait que ça joue un rôle au niveau des performances. Donc, on sait que si on est stressé, on performe moins bien. Puis les gens qui ont du stress chronique, par exemple, sont plus vulnérables en vieillissant. C'est-à-dire qu'ils ils peuvent avoir un déclin parfois plus rapide, mais ça peut jouer là. Mm-hmm. Là-dedans, nous, c'est pas quelque chose qu'on a observé dans
que le stress est un facteur de risque.
Voilà.
Voilà. Et maintenant, dernière question, celle qui aussi vous devez vous faire demander très très souvent. À quel âge, à partir de quel âge, il faut commencer à s'entraîner là, pour garder notre cerveau actif le plus longtemps possible?
En fait, à tout âge, je dirais qu'il faut garder son cerveau actif. C'est certain que ce type d'entraînement-là, vers la fin, cinquantaine, c'est souvent nos groupes qui sont ciblés. Mais si j'ai un conseil à donner, là, ce serait de... tout le temps là, de se garder très, très actif. Mais ce type d'entraînement-là, ça serait vers la début soixantaine,
vous faites quoi,
à peu près.
Vous, Bianca Bière, pour vous garder active? On va demander à la chercheure.
Je fais plusieurs choses en même temps. Tous les jours, je garde mon cerveau très, très, très actif. On essaie de bien manger, de faire du sport aussi. Il y a plusieurs études aussi dans notre laboratoire, dans notre centre de recherche, plutôt, mm-hmm. qui montrent que l'activité physique aussi, c'est très important au niveau de la cognition. C'est sûr qu'il y a un ensemble
d'habitudes de vie, encore une
Exactement.
Fois, et de nombreux facteurs également. Au même titre que cette étude-là semblait assez probante pour les enfants qui vivent avec mm-hmm. d'autres types de réalités également. Là. Qu'est-ce que vous avez découvert à ce niveau-là?
Auprès des enfants.
Oui, ce que l'étude disait, c'est qu'il y avait des parents qui semblaient être rassurés parce qu'il y avait des études qui démontraient aussi que faire le multitâche pour des enfants, ça pouvait notamment les aider.
En fait, nous, c'était vraiment au niveau de la population vieillissante, le cadre de notre étude. C'est certain que ce qu'on a fait dans le cadre de notre étude pourrait s'appliquer avec des populations d'enfants. Je pense, par exemple, aux enfants qui ont des troubles déficitaires de l'attention, par exemple, ça serait des genres d'entraînement qui seraient très, très, très pertinents pour eux, pour les aider à l'école, parce qu'on sait que ils doivent faire énormément de choses.
Mm-hmm. Ben oui, et c'est de ça qu'on va parler justement en deuxième partie d'émission. Pas tout à fait de ça, mais de comment on peut aider les enfants gauchers qui vivent avec parfois une réalité un petit peu plus difficile, un petit peu plus complexe dans leur réalité scolaire. Et ce qui était assez intéressant, ce que je voyais, c'est que c'est également, tout ça est dans le fonctionnement du cerveau. Et puis, on en parle avec Marielle Potvin. Vous êtes invitée et bienvenue à rester, Bianca Bière. Je rappelle que vous êtes doctorante en neuropsychologie à l'Université de Montréal, également auteur principal de cette recherche qui portait sur le multitâche qui peut ralentir le vieillissement du cerveau des personnes plus âgées. Merci beaucoup de votre participation.